Bonjour et bonne année à tous et à chacun, à chacun et à chacune. Et je pense qu'on va se le dire souvent dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne. Alors voyez que, j'ai écrit ça comme un titre binaire, c'est « Ou la peur ou la paix ». Peut-être on va voir que ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs un symptôme, puisque sur mon papier, moi j'ai écrit la peur et la paix. Alors dans cette méditation, juste peut-être nous rappeler ce matin que nous venons de fêter Noël, au cas où ça aurait échappé à quelqu'un. Et ce qui résonne encore, ce sont les mots de l'annonce extraordinaire faite aux bergers, de cette invitation qui leur est faite d'aller vérifier par eux-mêmes ce qui leur est prédit, à savoir la naissance d'un enfant dans une crèche et dans un endroit précis. Et c'est Luc 2, versets 10 à 12. Je pense que ça doit marcher. Vous connaissez ce texte, nous l'avons mâché, remâché ensemble ces derniers jours. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Alors, est-ce que nous avons réalisé un petit peu ce que les bergers, même si nous avons entendu mille fois ce récit, ont vécu en cette circonstance? Une véritable trouille. Une peur, et Luc précise même une grande frayeur. Nous avons là des hommes qui sont habitués à prendre des tours de garde la nuit, ils savent ce que c'est que d'être dehors, d'être seul face à l'inconnu, face à l'obscurité, à la peur du noir, et cette peur du noir, s'ils ne l'ont pas forcément vaincu, hein, au moins s'ils sont un peu habitués, mais là, c'est assez inhabituel, et c'est surnaturel. En dehors de tous les repères qu'ils ont construits dans leur vie de berger. La gloire du Seigneur, dans le texte, cette expression apparaît, c'est une lumière aveuglante qui accompagne la manifestation de la présence divine et qui ne laisse pas beaucoup de doutes sur son origine. Qui n'aurait pas eu, ici, présent, une grande frayeur? Seulement, il y a peur et peur. Il y a la peur qui vous paralyse, ou au contraire vous fait réagir, car vous êtes tout à coup en face d'un danger. Et nous la connaissons bien, cette peur, nous la rencontrons fréquemment. Et par exemple, sur un film, moi j'ai vu récemment ma petite fille presque traverser la rue alors qu'une voiture arrivait. Ça c'est la peur qui fait réagir. Vous voyez à peu près à quoi je fais allusion. Et puis il y a la peur que vous ressentez quand tout à coup vous êtes devant une réalité qui vous dépasse et qui vous fait mesurer que vous êtes un petit être vivant au milieu d'une immensité qui vous englobe. Alors vous mesurez votre place, votre juste petite place. Exemple, l'observation du cosmos à travers des lunettes d'astronome, ou alors, expérience vécue, on n'en a pas vu beaucoup ce jour-là, mais quand même, le côtoiement des baleines dans le fleuve Saint-Laurent, ou encore le vertige de la haute montagne, ou encore l'exploration des fonds marins, ou encore une visite de grotte où vous rendez compte que l'homme était présent il y a 15 000 ans. Et c'est cette peur-là que ressentent les bergers ce jour-là. Au milieu d'une clarté aveuglante, ils ne maîtrisent plus les éléments, ils ont perdu leurs repères d'hommes, ils sont dépassés. Mais ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que l'intention de Dieu n'est pas de les laisser dans la sidération. Ils vont avoir un rôle précis et précieux. Et dès le départ, c'est un « n'ayez pas peur » qui s'adresse à eux, dans un contexte où ils auraient pu se sentir littéralement en marge d'une situation qui les déborde. Ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Ils n'en ont plus parce que maintenant, ils sont au cœur du projet. Ils en font partie. Ils peuvent même jouer un rôle, c'est aller vérifier la promesse qui leur est faite. C'est une autre peur, mais qui s'est transformée en autre chose. En admiration, ensuite. Alors, par contraste avec l'annonce qui est faite aux bergers, on peut mesurer à quel point notre environnement aujourd'hui remet constamment la peur au centre du jeu. Constamment. La première sorte de peur, celle qui vous fait réagir ou au contraire vous paralyse. Et si nous n'y prenons pas garde, cette peur qui nous détourne sans arrêt de la promesse. C'est le « ayez peur » au lieu de « n'ayez pas peur ». Alors en ce moment, bien sûr, tout le monde a ça à l'esprit, peur de l'épidémie ou à contrario du vaccin, parfois les deux en même temps. De façon plus générale, peur de la guerre, peur de la perte d'emploi, de la crise économique, peur de la pollution, peur pour la planète, peur des astéroïdes, on en parle de plus en plus en ce moment, peur de la solitude, peur de l'ennui, peur de ne pas y arriver, peur de s'engager, peur d'être laissé de côté, peur de mourir, peur de vivre trop longtemps et pas en bonne santé, peur de l'insécurité, peur du voisin, peur, 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 peur. Et les thèmes ne manquent pas, on le sait, nos médias, si nous sommes branchés régulièrement dessus, ne se privent pas de remettre quotidiennement du carburant dans ces peurs-là. D'ailleurs, après les flonflons de la fête de Noël, une année qui s'ouvre, mais c'est pour celle-ci comme pour les autres, auparavant, ça fait revenir aux interrogations, dès le 1er janvier, aux interrogations les plus inquiètes. Que nous réservera cette année ? Après la quiétude de Noël, le fameux esprit de Noël dont on parle tant et que personne ne sait vraiment définir, revient l'inquiétude et reviennent chaque année, le 1er janvier, le 2 janvier, les mêmes questions, les mêmes, exactement les mêmes. C'est un peu comme si une anesthésie provisoire se dissipait et que nos sociétés se replongent avec un goût assez morbide, il faut le dire, dans ce qui fait peur. Alors, depuis quand sommes-nous, hommes et femmes, fascinés par la peur ? Si l'on en juge par le récit biblique, c'est assez rapide. C'est à la faveur de la rupture de l'homme avec son Créateur que l'insécurité fait son entrée dans notre existence. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Tout à coup, la relation de confiance devient une relation de défiance, alors que la question de la sécurité de la créature ne se posait même pas au début. Dorénavant, il va y avoir toujours plus de motifs d'avoir peur, d'abord du Créateur, puis des autres, puis des situations nouvelles et inconnues. Et on a de la peine à imaginer ici ce matin ce jardin initial sans peur, sans motif d'avoir peur, sans même la pensée de la peur. Aujourd'hui, l'intranquillité chronique est devenue un trait caractéristique de notre nature humaine, de la chair, selon le terme qu'emploie Paul dans l'Épître aux Romains, mais aussi plus globalement les auteurs du Nouveau Testament. Et voilà ce qu'écrit Paul aux Romains. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et c'est intéressant de se rappeler que Paul écrit ici aux chrétiens de Rome, dont certains ont un arrière-plan juif, et pour ceux auxquels il s'adresse, cette intranquillité fait partie de leur vécu. Arrêtez de vous punir vous-même, leur dit Paul, en ayant toujours peur d'enfreindre la loi de Moïse. Arrêtez d'attendre la sanction. C'est plus le sujet. Arrêtez de vous faire peur. Faites confiance en Dieu, vous êtes redevenus ses enfants par Jésus-Christ. Et les raisons profondes d'avoir peur, en fait, elles ont disparu. Votre Père vous a remis en sécurité. Et Jean, dans sa première lettre, ne dit pas autre chose. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Ce que disent à la fois Paul et Jean, c'est que l'amour parfait bannit la peur. Le fossé de la défiance entre vous et votre Créateur, ça n'existe plus. Votre relation avec Dieu n'est plus une relation piégée, où règnerait le soupçon. Grâce à Jésus-Christ, nous n'en sommes plus au « j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché ». Alors c'est bien beau tout ça, mais la question qui se pose, c'est quand même que faire de ma peur, moi, et de mes peurs. Est-ce que vous avez remarqué parmi vos relations et parmi vos amis, tous ceux d'entre eux qui imaginent toujours le pire ? Je suis sûr que vous en avez au moins un dans votre entourage. Ceux qui vous minent avec application un repas de famille ou d'amis en mettant l'accent sur ce qui ne va pas, sur ce qui va aller de plus en plus mal, forcément. On dirait qu'ils prennent un malin plaisir à anticiper catastrophes et mauvaises nouvelles et qu'ils se nourrissent de l'effet produit sur leur entourage, à moins qu'ils ne se déchargent ainsi de leurs propres angoisses en les partageant. Alors, quel joli partage! Et si vous vous mettez, vous, à relativiser ces affirmations pessimistes et péremptoires, alors vous passez pour un inconscient, un optimiste invétéré, quelqu'un qui décidément ne vit pas dans le réel. Et pour vivre dans le réel, il faudrait donc forcément imaginer le pire. Alors on peut sans doute éviter cette caricature. Refuser de céder à la peur, ça n'est pas refuser de voir les réalités en face. Pour l'auteur du psaume 118, ce n'était pas une belle théorie, mais une vraie expérience. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes. L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Et je suis sûr que, tout comme l'auteur des psaumes, nous pouvons attester de situations de détresse vécues. Et les uns et les autres, qu'en avons-nous fait? Qu'en faisons-nous? À quel moment je décide d'appeler au secours, comme l'auteur du psaume 130, « Du fond de l'abîme, je t'invoque au Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Et cet appel, en fait, si on réfléchit bien, c'est déjà une espérance qui s'ouvre. C'est déjà la manifestation d'une attente, d'une communication qui est recherchée par celui qui, avec celui qui peut nous redire alors, n'aie pas peur. C'est taper au fond de la piscine avec le pied pour remonter à la surface. Et c'est bien parce que nous avons cette confiance en notre Dieu que nous pouvons lui adresser ces SOS. Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être important de souligner ça ici ce matin, adresser les SOS, c'est la part qui nous revient. Ça a l'air de tomber sous le sens, mais ce n'est pas évident du tout. Ça veut dire que nous acceptons de reconnaître que la situation nous dépasse et que nous avons besoin d'aide. Et que rien n'évoluera sans cela. Vivre dans le réel, pour le coup, c'est bien ça. C'est reconnaître notre incapacité à nous en sortir tout seuls et ne pas nier nos peurs. Élie, le prophète, grâce à la série que nous avons avec Pierre Marquès depuis quelques dimanches, nous le fréquentons à nouveau et Élie, on se rappelle, fuit par peur des menaces de la reine de Jézabel. Élie a la trouille, on peut comprendre. Et il en a assez de lutter, il veut mourir. Éternel, prends-moi la vie. C'est une forme de SOS, ce « prends-moi la vie ». Sauf que ce n'est pas exactement ce que Dieu a prévu pour Élie. Et il vient le rencontrer dans son désert, il le répare, il le repose. Il assure Élie le déprimer de sa présence et de sa tendresse. Il lui redonne une perspective, celle de la succession par Élisée. Et si vous prenez un autre exemple, même Paul, le grand Paul, peut commencer à avoir des doutes face à l'opposition qu'il rencontre dans la synagogue de Corinthe. Ça va jusqu'aux insultes à son égard. Et voilà ce que Dieu lui communique dans une vision nocturne. N'aie pas peur, encore une fois, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et donc Paul avait peur lui aussi. Et plus tard, alors qu'il est prisonnier sur un bateau qui le conduit à Rome, relisez ce chapitre des Actes, je ne l'avais pas lu depuis longtemps et je l'ai redécouvert. La tempête est telle qu'elle menace le navire, mais le Seigneur lui dit à nouveau, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Traduction, la route ne va pas s'arrêter là. Et c'est d'ailleurs ce que Paul communique aux passagers du bateau. Alors, vivre sans la peur, est-ce possible ? Alors, j'ai volontairement passé sous silence la fin de ce que dit Paul aux passagers du bateau dans ce récit des Actes, acte 27. Car la suite de ce que Paul leur dit est importante. Je ne l'ai pas, mais je vais vous le lire. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. Ah ! Autrement dit, on va s'en sortir, mais ça ne va pas être simple. Il y a de l'épreuve qui vous attend. Et Paul n'efface pas le danger, ni l'épreuve à venir. Aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu, leur avait-il dit un peu auparavant. Mais il y a devant eux quelque chose de spécial à vivre. Pour certains, ça va être finir à la nage. Pour d'autres, ça va être s'accrocher à des bouts de bois, à des planches. Et bref, la confiance n'annule pas l'épreuve et surtout pas la peur de l'épreuve. À un niveau bien plus élevé d'épreuve encore, Jésus a partagé jusqu'au vécu de la peur. Et nous avons ce texte de Matthieu 26, 36 à 39. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse en mourant. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Jésus demande à Pierre et Jacques et Jean de l'accompagner et on voit jusqu'à quel point il a peur. Le même Jésus qui touchait des lépreux, qui ne s'inquiétait pas de savoir où il allait dormir ni ce qu'il allait manger, le même Jésus qui, dans ses rapports avec les dirigeants juifs, rencontrait l'opposition, le rejet, voire la haine, ce même Jésus affronte le moment auquel il s'est préparé toute sa vie d'homme. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il termine, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Non, la réponse, c'est « Il n'est pas possible de vivre sans la peur. » Personne ne vit sans connaître la peur, à un moment ou à un autre, et même notre Sauveur a partagé ça avec nous. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si nous voulons céder à la peur ou céder à la paix. Vous connaissez ce texte ? Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Traduction du Semeur que j'aime beaucoup. C'est Jésus qui parle et il fait cette recommandation avec tout un tas de recommandations dans le magnifique discours sur la montagne, où il dit aussi « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Proverbe passé dans le langage courant. D'ailleurs, c'est ce que je disais à mon équipe de collaborateurs en éteignant la lumière en fin de journée. Je leur disais souvent, à chaque jour suffit sa peine. Et c'était le signal du départ. Qui de vous peut ajouter un instant à sa vie par ses inquiétudes ? Le texte, quand j'étais enfant, était traduit dans d'anciennes versions par « Qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes ?» Difficile à comprendre pour un garçon de 10 ans. Une coudée, c'est environ 50 cm. Qui de nous peut ajouter 50 cm à sa vie par ses inquiétudes ? Et on pourrait dire aussi « Qui peut ajouter 30 secondes à sa vie par ses inquiétudes ?» Ça serait du même ordre. Notre nature humaine, la chair, selon le terme employé dans le Nouveau Testament, vit depuis longtemps maintenant la peur. Pour chacun d'entre nous, c'est pour des sujets différents, pour des raisons différentes, en fonction de ce que nous vivons au quotidien, mais aussi de l'histoire de notre famille, de nos proches, des circonstances, de nos sociétés. Et toute la question, c'est de savoir quelle place elle occupe, cette peur, dans nos journées, dans nos nuits. Est-ce que ces 30 secondes que nous n'ajouterons jamais à notre vie par nos inquiétudes, nous ne les dépensons pas 10 fois, 20 fois, 100 fois en pure perte ? Alors il ne s'agit pas de nier nos cœurs, nos craintes, nos inquiétudes, mais au contraire de bien les identifier, de les reconnaître. Pour ce qu'elles sont, certaines sont réelles, certaines sont imaginaires, mais elles peuvent nous empêcher en tout cas de dire que demain prendra soin de lui-même et de vivre pleinement surtout le moment présent. D'autres que nous s'affrontent ou se sont affrontés aux mêmes choses et sans doute il faut se souvenir régulièrement de ce que Pierre écrivait aux chrétiens répartis dans toute la région qui est aujourd'hui réunie grosso modo sur le territoire de la Turquie. Il leur écrivait « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et peut-être aussi faut-il se souvenir de ce que David, dans des circonstances dramatiques, et au moment où il écrit cela, il est fait prisonnier par les Philistins, et il peut quand même écrire les choses suivantes, toutes simples. Les psaumes en sont truffés de ces expressions, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » C'est tout simple, c'est très court, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, conclusion. En 2004, il y avait un directeur de chaîne de télévision, TF1 pour ne pas la nommer, qui avait inventé une expression terrible, à propos de la commercialisation des espaces publicitaires. Il disait, vous en souvenez sûrement, « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Ça avait un peu choqué à l'époque. C'est terrible, mais ça a le mérite de souligner que notre temps de cerveau humain, il vaut cher, qu'il a du prix. Il est donc intéressant de savoir pourquoi nous le rendons disponible. Pour nos peurs ou nos inquiétudes, en les entretenant régulièrement, comme on le ferait avec des fleurs, en les arrosant avec le temps que nous y consacrons, 10 fois, 20 fois, 100 fois les 30 secondes que nous pensions pouvoir gagner, en les faisant grandir petit à petit, ou pour nous décharger avec une belle régularité de tous nos soucis, comme nous y engage l'apôtre Pierre. Notre temps de cerveau disponible. Je termine par un dernier passage que je vous laisse pour la semaine. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose. Exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée, votre temps de cerveau disponible, sous la protection de Jésus-Christ. Amen.